Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8 heures du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher. Mais demain rien ira mieux puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes rêvent sous les ponts. Mais ce monde s'en fout puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux. Je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu, devenir feu, devenir feu. Encore un jour se lève sur la planète France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves. Je connais trop la danse comme toujours. Il est 8 heures du soir, j'ai dormi tous les jours, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Qui sait, si on ferme les yeux, on vivra vieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux. Rêve sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux. Puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous. Comme des fous.
Bonjour à tous sur Radio Lycée au lycée Alain Fournier. Nous sommes des élèves de première AGGASP. Nous allons interroger aujourd'hui Roger Langlais, journaliste d'investigation. Roger Langlais, né le 31 mars 1956 à Paris, a exercé plusieurs professions durant sa carrière. Aujourd'hui, journaliste d'investigation, il a écrit 33 livres. Il évoque dans ses ouvrages de nombreux thèmes comme le monde médical, les addictions, les problèmes environnementaux, etc.
Bien, bonjour Monsieur Langlais. Donc vous avez un parcours assez atypique, en effet, à l'origine diplômé de philosophie. Vous devenez journaliste à Charlie Hebdo, puis journaliste d'investigation indépendant. Qu'est-ce qui vous a amené aussi loin de votre formation initiale ?
Alors, en fait, c'est pas aussi loin de la philo. Donc j'ai d'abord été prof de philo. Après avoir été un cancre absolu à l'école primaire, je suis rentré au lycée sur erreur administrative, on m'a viré immédiatement. Enfin bon, je me suis retrouvé coiffeur, pompiste, balayeur, tout ce que vous voulez. Et puis j'ai été séduit un jour, devant la télé, un document de l'INA. Gaston Bachelard parle, ce philosophe français, à l'ancienne, avec un accent de pécor incroyable. Et j'ai été séduit, complètement embobiné. Je suis tombé amoureux de la philo. Alors c'est vrai que j'étais un peu dans le désir de ma mère, parce qu'on regardait la télé ensemble, et ce Gaston Bachelard, quand il est passé, je voyais que il la fascinait. Et j'ai découvert que ma mère, en fait, était fascinée par les penseurs. Alors je pense que ça a joué un rôle, vous savez. Et donc je pense que j'ai été dans le désir de ma mère, en passant après, en lisant énormément de philo, etc. J'ai passé l'examen spécial d'entrée à l'université, les études se sont passées brillamment, je suis devenu prof de philo, chargé de cours à l'université, etc. Bon. Et puis j'ai commencé à écrire des livres de philo, et puis petit à petit d'investigation, parce que je découvrais une chose importante, c'est qu'en fait, le pouvoir, on en parle beaucoup, en philosophie, les meilleurs systèmes de gouvernement, etc., etc., depuis Platon, pas de problème, on en parle beaucoup, mais on n'y connaît rien, en fait. On ne connaît rien au processus de la décision politique. Qu'est-ce qui fait qu'un chef d'État, Macron par exemple, va prendre telle ou telle décision en réalité? Quels sont les acteurs d'influence autour de lui et tout ça? Ça, on ne le sait pas. Et donc, ça a commencé à me passionner, et c'est comme ça que je suis devenu journaliste d'investigation, c'est en allant voir les types qui influençaient les décideurs, que j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la décision politique. Et donc j'ai commencé à faire des livres d'investigation là-dessus, et évidemment, j'ai découvert la corruption, ce qu'on appelle la corruption, tout simplement, la corruptibilité énorme des hommes politiques. Et ce qu'on appelle aussi, c'est un mot un peu plus technique, le lobbying, en fait, les opérations des lobbies, des gros pouvoirs économiques auprès des décideurs politiques, c'est devenu ma passion.
D'accord. Du coup, pourquoi avoir arrêté votre profession d'enseignant? Et quelle expérience en avez-vous tiré?
Alors, l'expérience, ça a été de vous connaître, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je connaissais pas le lycée. Je connaissais pas l'université au départ et tout ça. J'ai découvert ce monde. Donc, ça m'a apporté beaucoup de joie. C'est celle de transmettre les interrogations fondamentales qu'on peut avoir dans la vie, d'apprendre à penser. Parce que la philo, ça sert quand même un peu à ça, apprendre à penser. Enfin, même si c'est pas un médicament comme l'aspirine, etc., et que ça rend pas forcément très heureux tout de suite, ça contribue énormément à ça. Après, le journalisme d'investigation, c'est devenu une passion, un peu dangereuse parfois, et ça, mais qui apprend énormément sur les hommes. Notamment, je vous dis, sur leur corruptibilité, et ça vous apprend aussi à vous méfier. En fait, de la décision politique, aller toujours voir derrière les apparences. Alors, c'est très platonicien, ça, c'est très, très philosophique. Hein. La vérité se présente pas comme ça dans les apparences, faut aller la chercher. Et c'est parfois difficile. Parfois, on se fait peur aussi. En tant que journaliste d'investigation, vous avez des menaces. Cela dit, vous avez plus souvent des carottes. Hein. On vous propose franchement de l'argent ou des avantages pour ne pas sortir votre article ou pour l'orienter, etc. La corruption menace beaucoup les médias, bien sûr.
On a appris que vous avez travaillé chez Charlie Hebdo, et du coup on aimerait savoir quelle expérience en tirez-vous.
Alors oui, j'ai pas répondu complètement à la question précédente, pourquoi j'avais quitté l'enseignement, c'est pour me consacrer uniquement à mes livres, c'est devenu une passion, et presque inconciliable, parce que quand même le métier d'enseignant ça prend du temps, puis j'avais l'impression de me répéter un peu quand même au fil des années. À Charlie Hebdo, donc là c'était pour moi une période, ça a duré une dizaine d'années, absolument formidable, avec une liberté de ton, de style. On peut écrire de façon argotique dans Charlie Hebdo. On peut, c'est une littérature à l'estomac. On y va aussi avec. On apprend à écrire. En fait, c'est une école d'écriture aussi, Charlie Hebdo. Et puis pour moi, c'était formidable puisque quand j'étais plus jeune, je lisais presque uniquement Charlie Hebdo, et puis Le Hérisson, c'était un truc encore plus populaire, on va dire. C'est des journaux où il y avait essentiellement des dessins humoristiques, et donc c'est l'apprentissage, là, des choses formidables qu'on peut dire de façon extrêmement courte et provocante. Et ça, c'est une école de vulgarisation, je dirais, pour un auteur plutôt formé par l'université, comme je l'étais. Ça apprend vraiment à se décontracter, et ça apprend à parler, à écrire pour tout le monde.
D'accord. Eh bien, merci de votre réponse. Tout à l'heure, vous avez bien précisé que vous avez été journaliste d'investigation. Et nous aimerons savoir, est-ce qu'on peut vivre du journalisme d'investigation?
Alors, ça dépend ce que vous appelez vivre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça rapporte de l'argent?
Bon. Dans ce sens, oui.
Voilà. Alors, ça dépend. En fonction des scoops que vous ramenez. Bon. Ça m'est arrivé, par exemple, à Charlie Hebdo, mais aussi pour d'autres journaux. Mais à Charlie Hebdo, en l'occurrence, j'avais ramené un scoop terrible à l'époque où on se gargarisait dans les médias français du fait que les nazis avaient imposé, les nazis, hein, je dis bien, dans les années 40, avaient imposé une stérilisation massive aux femmes considérées comme faiblardes intellectuellement, enfin comme débiles, en fait, débiles légères, etc., ou même débiles lourdes, a fortiori. On avait découvert que les États-Unis l'avaient un peu fait aussi. Bon, on avait découvert que les pays du Nord, les Suédois en particulier, l'avaient fait jusqu'en 1976. Donc, totalement inhumain, quoi. Et là, j'ai l'idée de fouiller en France. Et je découvre quoi? C'est que on était là dans les années encore 1999, donc c'est très récent. La France continuait à le faire. Sur des milliers de jeunes femmes chaque année. Beaucoup découvrant qu'elles avaient été stérilisées à leur insu, en passant par une appendicite ou présentée comme une appendicite. Enfin, mais vraiment, un scandale absolu. Absolu. Bon, je vais aller vite. Charlie Hebdo a fait la une du Time. C'est devenu, tout à coup, le monde entier connaissait Charlie Hebdo. Alors, vous voyez, comme, quand vous amenez des affaires comme ça, c'est vrai que même vous avez d'autres journaux qui viennent vous voir en disant « Vous pourriez travailler pour nous, etc. On paierait bien. » En fonction, ensuite, je ne travaille pas que pour Charlie Hebdo, en fonction de la de l'énormité du scoop que vous amenez, eh ben, vous négociez avec le rédac-chef le prix, en fait. C'est comme vous devenez un marchand de tapis. Bon. Sauf que c'est pas des tapis, c'est des trucs qui bouleversent et qui font avancer l'humanité. Là, en l'occurrence, des affaires comme ça. Ensuite, les parlementaires agissent, il y a des lois, ils arrêtent ce genre de choses, etc. Bon, et puis il y a du lobbying et tout ça. Bon, ben, ça devient compliqué. Mais on peut en vivre. On peut même bien en vivre. Après, ça dépend des périodes. Vous avez plus ou moins de courage, plus ou moins d'affaires. Il y a un facteur chance dans le journalisme d'investigation. Plus vous vieillissez, plus vous avez de papier, plus vous avez un réseau d'informateurs qui grandit. Ça, c'est important à savoir. Hein. Donc, les premières années, c'est difficile. Après, vous avez un réseau d'informateurs politiques, dans la police, chez les parlementaires, partout, dans le monde scientifique, des scientifiques qui vous font confiance, qui acceptent de vous parler, alors que sinon, souvent, les chercheurs scientifiques sont très frileux. Ils ont peur de ce qu'ils vont dévoiler sur ce qui se passe dans leur laboratoire. Et donc, il faut être en confiance. Vous devez rester loyal. Si, par exemple, un chercheur vous dit, ou un politique, je vais vous dire ça, mais ça, vous le répétez pas. Hein, c'est juste pour vous ouvrir des voies. Là, il faut être loyal. Si vous dites, oui, dites-le moi, je ne le répéterai pas. Si vous trahissez, après, c'est fini. Et ça se sait très vite dans le métier.
Bah, d'accord. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de journalisme d'investigation, mais est-ce que vous pourriez définir par rapport à ce que vous avez fait, ce qu'est concrètement être journaliste d'investigation? Et aujourd'hui, on entend beaucoup le terme de lanceur d'alerte. Et est-ce que vous vous considérez comme ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un lanceur d'alerte ou quelque chose du genre?
Alors, mon Dieu, on rentre dans les lanceurs d'alerte, ça c'est terrible. Bon. Parce qu'il y a tous les niveaux. Il y a le gars qui travaille dans une entreprise, qui assiste à une transaction sous la table, un truc pas clair, qui met en péril un peu l'entreprise éventuellement, hein, parce que la corruption ça part dans tous les sens, entre concurrents industriels notamment. Et puis vous avez le lanceur d'alerte, qui, de façon plus large, comme je suis, par exemple, j'ai commencé par un livre sur l'amiante, à une époque où les gens en avaient à peine entendu parler. Je découvrais la corruption qu'il y avait là-dessous, en direction des partis politiques et tout ça, et les techniques des lobbies pour paralyser la décision sanitaire, en fait, même quand il y a beaucoup de morts. Ça, c'était fou. Je me souviens de l'éditeur, j'allais le voir, j'ai dit, il y a 3000 morts par an en France à cause de l'amiante. Et quand il va me parler, je m'aperçois qu'il croyait que c'était dans le monde. Il me dit, mais c'est énorme, énorme. Après, je lui répète, c'est en France. 3000, mais non, c'est pas possible. Ça, on le saurait, on en parlerait. Bon, on en était là à l'époque. Hein, ça, c'était les années 90, 95, 94. Ça a explosé. Et on a découvert, c'est devenu le dossier phare, l'amiante. De quoi étaient capables les industriels et les politiques, hein, en termes de déni, malgré un nombre de morts colossal et la possibilité finalement facile d'arrêter. Quand il y a eu le scandale a explosé, bah, ils ont interdit l'amiante. Terminé. Les industriels ont fermé la porte, ils sont allés ailleurs, et puis certains ont survécu, très bien d'ailleurs. Mais ça repose fondamentalement sur du financement des partis politiques. Et il faut savoir encore aujourd'hui que la vie politique française, malheureusement, dépend encore beaucoup de l'argent des milliardaires et des grands groupes. Ça, c'est une chose à laquelle on a affaire. Donc, fatalement, en tant que journaliste d'investigation, concrètement, ben vous vous retrouvez avec beaucoup d'ennemis, mais cela dit avec du respect, des gens qui ont peur. Moi, parfois, vous appelez à 1h du matin un ministre, vous le réveillez en disant « c'est très grave, il faut répondre tout de suite, le papier sort demain », et vous êtes mis en cause très gravement, je suis obligé de le faire. Et vous entendez le ministre qui claque des dents au téléphone, ça m'est arrivé. Donc là, vous avez une espèce de jouissance, parce que vous avez un homme très fort en face de vous, qui fait la pluie et le beau temps, et vous sentez qu'il a peur de vous, qu'il vous respecte, et là vous vous sentez plus puissant que lui, avec une responsabilité vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de l'opinion publique. Donc vous agissez politiquement. Alors que ce n'était pas votre truc au départ, forcément de faire de la politique, mais en permanence vous êtes sur cette brèche politique où vous influencez vous-même la décision des grands décideurs.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais...
Oui, oui. Et une question qui est assez différente, mais du coup, vu que vous avez été professeur, pourquoi avez-vous accepté cette invitation du lycée Alain Fournier ?
C'est la colle. Alors, ben comme dans le métier du journalisme, d'investigation ou de philosophe, vous pouvez être un homme de rencontre. Hein. Le fait d'intervenir, de faire des conférences dans tout un tas d'endroits, ça fait que vous rencontrez des gens qui vous demandent si vous pouvez intervenir là ou là. Et ça s'est fait comme ça. Donc pour ce lycée. C'est le facteur rencontre pour un journaliste et même pour un philosophe, en fait. C'est fondamental.
On peut voir que vous aimez, du coup, être informé. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir informer les gens ? À être lanceur d'alerte ?
Alors,
je réutilise le terme.
Oui, bah oui, alors ce qui fait que des alertes, je ne les compte plus. J'ai dû en lancer 20 ou 30. Enfin, voilà. Et puis, vous ne vous posez pas comme lanceur d'alerte quand vous êtes journaliste d'investigation. Vous vous dites... Je fais mon boulot, en fait. Et de fait, si vous êtes un bon enquêteur, c'est-à-dire fondamentalement passionné, avec des valeurs importantes et tout ça, vous êtes forcément un lanceur d'alerte. Vous dénoncez des scandales. Et moi, ma spécialité, c'est vite devenu le monde médical, enfin la santé publique, parce que je me disais, qui sont des priorités très importantes hein, dans la vie, les priorités qu'on se donne, je me disais en tant que journaliste, ce qui m'importe, c'est de sauver des vies. En santé publique, je peux sauver des vies en intervenant. Là, je citais le cas de l'amiante, mais je me suis beaucoup battu contre les cigarettiers, contre certains lobbies médicaux qui pensent qu'à vendre des médicaments, même s'ils ont des effets secondaires graves, qui remettent en question la façon de les distribuer, etc. Beaucoup de corporations, bon, celles des médecins en particulier, qui ne sont pas tous... très très investis par leur morale et qui se laissent facilement jusqu'à maintenant qui se laissaient trop souvent facilement soudoyer par les visiteurs médicaux, c'est-à-dire les représentants de commerce des laboratoires pharmaceutiques qui n'oublient pas de fêter l'anniversaire du petit par des encyclopédies, des bouteilles de champagne et puis beaucoup d'invitations au restaurant et puis de l'argent qui circule sous les tables. C'est de façon un peu sophistiquée. On vous fait intervenir dans des colloques, par exemple. Le labo pharmaceutique aime bien ça. Et puis, le médecin est très grassement payé. Il a des vacances à l'œil avec sa famille, à Rio, etc., etc. Enfin, il y a tout un monde, un entre-soi qui se constitue. Et ça, c'est dans toutes les professions importantes, avec en plus des parlementaires qui sont en grand nombre représentants de ce corps-là, en l'occurrence corps médical, et qui eux-mêmes sont très sensibles aux sollicitations des labos pharmaceutiques. Qui peuvent avoir des propositions de loi fabriquées par ces laboratoires, par exemple, pour défendre des réformes et tout ça, qui vont être favorables au monde du médicament. Vous voyez, bon. La corruption est, en tant que journaliste d'investigation, on se heurte tout le temps à ça. Elle est quasi omniprésente, à un point qui rend tellement, qui est tellement révoltant, parce qu'on se réveille aussi, on est comme tout le monde, en tant que journaliste, on se dit, c'est pas vrai, ça vient jusque-là, il y en a autant que ça, etc. Et là, fatalement, vous avez la raison. Vous avez envie de la diffuser. Plus vous en savez, plus vous avez envie de diffuser. C'est des informations fondamentales, très importantes. Vous réalisez à quel point la démocratie, par exemple, qui est tellement précieuse, est corrompue, court-circuitée par tous ces circuits-là.
Merci d'avoir répondu. C'était très intéressant. On remercie notre invité pour ses réponses. Nous allons maintenant écouter Billie Jean de Michael Jackson. On se retrouve pour la deuxième partie.
venons d'écouter une musique de Michael Jackson. Nous allons donc commencer à répondre aux questions de notre deuxième partie de l'interview en direct du lycée d'Alain Fournier. Donc, nous avons appris que vous avez écrit de nombreux ouvrages de façon coécrit, comme l'affaire de la maladie de Lyme avec Charles Perrin et l'eau des multinationales avec Jean-Luc Touly. On aimerait savoir comment vous avez choisi vos collaborateurs et est-ce facile de coécrire ?
Alors, déjà, non, c'est pas facile de coécrire. Il y a intérêt à fixer la hiérarchie entre les deux auteurs ou les trois dès le départ, parce que sinon, vous allez droit à toutes sortes de contrariétés. C'est très difficile. J'écris un roman à deux, par exemple, qui s'appelle Cocktail de l'enfer. C'est l'histoire d'un lobbyiste à qui il arrive des méchancetés, puisque finalement il doit se faire tuer, etc. Enfin bon, parce qu'il a un peu trop parlé. C'était avec Simon Pradinas, mon meilleur ami. Et il y a des périodes où carrément vous n'êtes pas d'accord, parce qu'une façon de s'approprier l'écriture, les personnages. Bon, un roman, faut pas le faire. Bon, ça serait très bien terminé. On a fait un petit chef-d'œuvre, on était contents et tout ça. Mais ça passe par des périodes de conflits quand même, des grosses contrariétés, parce que tel personnage que vous inventez, vous avez envie qu'il ait telle affectivité, tel sentiment et tout. Puis l'autre, il lui fait arriver des trucs horribles. Enfin bon, c'est plein de. On s'approprie les choses. Pour une enquête, c'est plus facile quand même, parce qu'on est dans l'objectivité, vous voyez, on n'est pas dans l'imaginaire. Bon, mais ça reste quand même, en termes d'écriture, il faut vraiment fixer les priorités avant, c'est un conseil que je donne toujours. Donc après, comment vous choisissez vos collaborateurs? C'est en fonction du thème sur lequel vous travaillez. Vous prenez un collaborateur qui s'y connaît, faut pas qu'il soit trop néophyte dans le domaine, évidemment. Et ça veut dire qu'on va se distribuer l'enquête, les gens qu'on va interroger au téléphone ou en direct, etc. Plutôt en direct, c'est toujours meilleur. Si possible, autour d'un repas. Les informateurs sont toujours plus bavards. Une fois qu'ils ont bu un petit coup, alors ça va encore mieux. Et ça, c'est important, parce que le téléphone, en gros, vous obtenez rien. La proximité humaine reste quand même l'outil de base du journaliste d'investigation. Il faut qu'il ait des confidences. Et les confidences, on les donne pas à quelqu'un au téléphone comme ça, simplement parce qu'il est journaliste. Ça va de soi. Il faut sympathiser d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai connu comme ça des corrupteurs professionnels qui étaient extrêmement sympathiques. Vous vous dites d'ailleurs, bah oui, pour être corrupteur à ce niveau-là, il y a intérêt à être sympathique. C'est leur métier, quand même. Qui arrive à vous corrompre à peu près n'importe qui. Comme me disait un gros corrupteur, très grand corrupteur national, et il me disait, en fait, il n'y a pas d'homme corruptible. Il n'y a pas d'homme incorruptible. Ça n'existe pas. Il n'y a que des hommes qu'on ne sait pas bien prendre. Eh oui. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, vous n'avez même pas... Ils refuseraient l'argent, par exemple. Il m'expliquait ça, hein, qu'ils refusent l'argent. Une valise, un compte ouvert à l'étranger, tout ça. Non, c'est pas moral. Par contre, de leur présenter un gros patron... De leur faire croire de leur répéter qu'ils sont pas embauchés à leur juste valeur. Le déficit narcissique, ça on l'a tous, c'est universel. Même Macron, il a un déficit narcissique, un déficit de reconnaissance. Forcément. Même, vous voyez, au plus haut stade, on va dire, de la République. Et les corrupteurs professionnels savent jouer avec ça. Ils connaissent l'homme. Ils peuvent vous placer très vite, ceux que je connais, ils vous placent très vite le curseur de corruptibilité du bonhomme. Je dis l'homme ou la femme, hein. Le curseur, en quelques minutes, c'est leur métier. Ils font ça tous les jours. Celui dont je vous parle, il ouvrait 24 heures sur 24, enfin en dehors de dormir et de manger, il ouvrait des comptes à l'étranger, c'était son principal job, mais il présentait aussi des gens. L'entre-soi, quand on vous fait rentrer dans le monde du pouvoir et du patronat, il me disait, les gars, ils vous mangent dans la main. La servilité, l'envie d'avoir du pouvoir, d'en partager... et il me dit, beaucoup de gens, simplement, qu'un patron leur caresse le dos, ça suffit. Vous en obtenez ce que vous voulez. Alors, je sais pas si je suis resté dans la question, là.
Vous avez répondu à ma question, merci beaucoup.
Bien, ensuite, vous avez parlé de sujets qui vous intéressaient, vous avez parlé de la santé publique, de la corruption, mais comment vous faites pour approfondir vos sujets? Comment se déroule, en fait, la phase... d'enquête, d'investigation, vous avez parlé de réseautage un peu, de personnes qui, dans un entre-soi, qui vous donnent des informations. Comment ça se passe?
L'écriture de vos œuvres.
Alors, en général, c'est vrai que c'est un peu vague comme question.
Oui, non, mais elle est effectivement vaste, mais au départ, c'est voilà, si vous êtes sur un sujet, par exemple, concernant des toxiques, des produits toxiques graves, ce qui a souvent été mon cas, des produits toxiques graves, bah, vous appelez un toxicologue. Là, c'est simple, c'est allô Alain. Bon, toxicologue que vous connaissez, que vous entretenez la relation, et puis d'autres. Allô Henri, voilà, tel produit, et vous savez que lui travaille plutôt là-dessus, lui là-dessus. Là, bon. Dis-moi, je suis en train de travailler sur tel produit, t'aurais des contacts là, c'est-à-dire en gros, vous lui demandez les informateurs les plus pointus sur la toxicité du produit, hein, les toxicologues. C'est leur métier qui travaille généralement d'ailleurs pour les industriels. On en a peu aujourd'hui qui restent encore travailler pour les services publics, malheureusement. Et là, les gars vous parlent parce que vous êtes introduit par un gars qui est respecté dans le milieu, etc. Alors ça peut être vrai pour le politique aussi. Vous avez des contacts avec certains parlementaires qui vous permettent d'accéder plus facilement au bureau d'un sénateur ou d'un député et de discuter avec lui. À partir du moment où vous êtes intronisé un peu comme ça, et c'est ça, au fil des années, vous constituez votre réseau. Donc ça commence comme ça, et vous rencontrez donc les gens qui ont des choses à raconter sur la toxicité de tel produit. Vous leur garantissez que leur nom ne sera pas cité, par exemple. Et ils ont l'habitude, encore une fois, c'est la loyauté qui s'installe. Et puis à partir de là, vous avez des infos. Après, il faut gratter. Il faut finir toujours par trouver quelqu'un qui accepte de parler en son nom. Et généralement, bah, vous les trouvez malheureusement auprès des victimes qui ont des démarches judiciaires, hein, ce qui est aussi une démarche judiciaire pour un journaliste d'investigation. C'est important parce que si la personne a porté plainte, c'est que ça devient sérieux son truc. Puis après, vous mesurez évidemment le sérieux, l'objectivité de la personne en question. Les associations, le monde associatif, le monde syndical, là vous avez beaucoup d'informations qui dorment. Donc vous grattez tout ça, vous faites, moi je dirais en une enquête qui m'a pris pendant un an sur l'amiante, j'ai appris tout le métier. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois le même modèle qui se reproduit sur les autres produits. Là, en l'occurrence, en toxicologie industrielle, on appelle ça comme ça, la toxicité donc des produits mis sur le marché. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que vous retrouvez sur tous les, même dans des secteurs plus loin que le toxique, dans le monde du médicament, etc., je retrouve les mêmes lobbyistes. On retrouve les mêmes acteurs clés. Les mêmes politiques qui relaient les lobbyistes. Le monde du pouvoir, en fait, est tout petit. Vous l'apprenez très vite. En un an, deux ans, vous dites, c'est incroyable, le gars, il est là, il est là, il est là. C'est un corrupteur professionnel qui intervient auprès de toute une partie du monde politique. Bon. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Hein. C'est un métier qui s'apprend sur le tas, encore. Vous n'avez pas besoin de passer par une école de journalisme. Le journalisme est très ouvert, en fait. Il est fondamentalement démocratique. Alors, vous pouvez faire une école de journalisme, tant mieux. Vous apprendrez à parler dans un micro, par exemple, à parler devant une caméra, à animer les choses. Bon, mais l'investigation, l'enquête elle-même, ça, c'est un truc qui vous vient, qui remue vos neurones, je dirais, les plus profondes, quoi. Je dirais que ça ne s'apprend pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir appris fondamentalement mes ressorts dans la faculté d'indignation. Là où pour les autres, ils trouveront toujours des raisons d'accepter la chose, de trouver ça banal, etc. La faculté d'indignation, c'est fondamental. Et moi, j'ai l'impression, je vais vous faire une confidence là, qui va passer partout, c'est que cette faculté, je l'ai cultivée sous les comptoirs de bar où m'emmenait mon père, trop souvent. Il buvait beaucoup. Et cette faculté d'indignation, avec ses petits moyens, mon père l'avait. C'était un bagarreur de bar, justicier. Ce qui fait que d'ailleurs, quand j'étais gauche, je suis devenu très vite moi-même bagarreur, justicier, vous voyez. Le petit loubard qui fait des trucs, il croit que c'est bien. Voilà. Mais ça m'est resté, en fait. Je crois que c'est, vous me demandiez mon parcours, c'est un des éléments fondamentaux de mon parcours. C'est l'envie de se battre pour la justice.
Merci. On va revenir sur la question des médias. Que pensez-vous du rôle des médias dans l'exposition de certaines affaires que vous avez dénoncées? Par exemple, on peut citer l'affaire de l'amiante.
Je dirais que sur toutes les affaires, les médias, les grands médias sont quand même très frileux. Alors, il y a la prudence nécessaire, évidemment, même vis-à-vis des confrères journalistes. Alors, là aussi, vous faites respecter au bout d'un moment. Ils vous font plus confiance, on vous invite plus souvent. et ils savent que vous dites pas des bêtises ou simplement pour épater la galerie ou genre de choses, que c'est documenté, que c'est sérieux, etc. Là, vous passez plus facilement, ils vont plus loin. Mais c'est vrai que parfois, il y a une obstruction des rédactions en chef. Moi, il m'est arrivé sur des grosses radios, que je ne citerai pas, de dire finalement, Michel Field, à une époque, bon, qui m'invitait pour des très gros scandales, des détournements de milliards d'euros. Mais comment t'as fait pour m'inviter là? C'était pas possible avec le gros patron là. On dit, ouais, mais là, il est en vacances pendant 15 jours. On va se faire engueuler par contre quand il va rentrer. Voilà.
Merci.
D'accord, eh bien merci de votre réponse qui est très intéressante. Donc vous êtes une personne qui est quand même assez connue, vous êtes dans le monde du public. Donc on se demande si vous avez déjà interviewé des personnes connues et est-ce que vous avez une figure ou une œuvre qui vous inspire pour vos œuvres.
Alors, j'ai pas complètement compris. Est-ce que j'ai
une figure ou une œuvre qui vous inspire?
Alors, une figure. Il y a eu des figures sur lesquelles j'ai hésité parfois, enfin des personnalités. Je me souviens, j'étais invité par le bras droit de Danielle Mitterrand, donc la femme de François Mitterrand, qui est une diva mondiale. Hein, faut savoir qu'elle était célèbre, célébrée dans le monde entier, etc. Bon, restée toujours très à gauche, donc finalement hors du pouvoir d'une certaine façon, et reprochant à son mari, François, certaines choses. Bon, j'avais demandé à des amis. Je me souviens, un ami metteur en scène, Pierre Pradinas, et d'autres, Simon, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais travailler? On m'invitait à l'aider à écrire son dernier livre, qui se voulait être un testament politique, social, et tout. Bon. Et on y fait. J'avais peur de me compromettre en le faisant. Vous voyez, j'étais vraiment radicalement, moi, indépendant. C'est, voilà. Ils m'ont dit, mais de toute façon, tu regretteras pas. C'est intéressant. Donc, fais-le. Alors, j'y suis allé. Et là, j'ai découvert une personnalité avec beaucoup de confidences sur sa relation avec François Mitterrand, président, etc., lui reprochant certaines choses, vraiment des choses extrêmement précises. Donc, j'ai pas regretté de l'avoir fait. Et j'ai vu comment quelqu'un, à ce niveau-là d'introduction dans le pouvoir, pouvait rester très droit, ou essayer du moins de rester très droit. Ce qui faisait dire à François, souvent, quand elle lui reprochait des trucs, il dit « Mais Daniel, tu ne comprends rien à la politique ». Ça en dit beaucoup sur qu'est-ce que c'est que la politique. Notamment sur des trafics avec de l'argent, bien sûr. Beaucoup d'argent. Daniel, tu comprends rien à la politique. Et je restais quoi là, quand on vous dit ça, voilà. Où je devais rappelle-toi, quand on était, bon, à l'époque, vous étiez dans la résistance, ou juste après la guerre et tout ça, quand il commençait à être ministre, on s'était promis certaines choses qu'on ferait jamais. Si on accédait au sommet de l'État, des choses qu'on ne ferait jamais, et tu les fais. Voilà. Et du coup, il trouvait des moyens d'infléchir un peu, quand même, ses positions, ou de faire attention et tout ça. C'est drôle, le parcours moral, hein, en fait, d'un homme politique. André Ascheri, avec qui j'ai écrit 3 ou 4 livres, par exemple, député des Alpes-Maritimes, qui était devenu le rapporteur parlementaire sur les risques environnementaux, notamment pour les enfants. Vous savez, qui sont beaucoup plus sensibles aux produits toxiques. Là, j'ai découvert un maire et un député absolument, enfin, d'une droiture, pour moi, exceptionnelle. Donc, il y en a. On peut faire des parcours en politique qui sont admirables.
D'accord, merci beaucoup.
Vous avez mentionné plus tôt que vous aviez déjà reçu des menaces, mais... Y a-t-il des sujets inabordables? Alors, pas forcément vous, vous avez l'air assez engagé, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des sujets qui sont tellement sensibles à aborder qu'il en serait dangereux pour votre vie ou votre train de vie éventuellement, quand on tape dans le porte-monnaie, excusez-moi.
Alors, oui, il y a des sujets sur lesquels, enfin, ou des attitudes... je suis obligé de faire attention parce que je vous cite un exemple. À un moment, je dénonce. Les journaux en voulaient pas. Je vais voir François. C'était Yves Tréhard qui était là à l'époque avec une énorme affaire. C'est qu'on avait découvert que Saint-Gobain se débarrassait de façon très maladroite de ses déchets radioactifs. Ils produisent beaucoup de déchets radioactifs. Bon, il y a des processus industriels qui produisent ça. Je découvre qu'ils s'en débarrassent en mettant ça dans leur laine de verre. Qui rentre dans toutes les maisons de France et de Navarre. Bon, énorme. Donc ça sort. Il n'y a pas eu de procès, hein, François. Moi, aucun procès. Par contre, en 24 heures, l'action de Saint-Gobain dégringole de 20%. Chute libre. Oui. Journaliste d'investigation, c'est ça aussi. Quand vous dénoncez des faits de cette nature, et il y en a beaucoup, où je pourrais prendre Lactalis et tout ça, d'autres trucs plus récents, l'action dégringole. Et quand ça dégringole, tous les actionnaires partent, ils revendent très vite, évidemment, pour pas perdre leurs millions. Ça peut être la catastrophe. Là, en l'occurrence, des affaires comme ça, j'en ai eu beaucoup. Et au bout d'un moment, vous dites, bon, par exemple, une fois, il y a une grosse radio de Moscou m'invite à venir à Moscou, tout frais payé, etc., pour leur parler de la corruption de grands groupes français en Russie. J'ai dit non. J'ai dit non, je ne prends pas le risque de me faire descendre là-bas, parce que là, c'est trop tentant. Aller en Afrique, ou dans certains coins d'Italie, je dis non. Vous voyez, en Amérique du Sud, je dis non. Voilà, j'y vais pas. Je reste soigneusement dans notre petite Europe. Donc là, il y a des choses comme ça. Si vous aimez voyager, c'est pas, faut pas faire ce métier quand même. Enfin, pas à ce niveau-là, en tout cas, pas en prenant trop. Un tueur à gages aujourd'hui, vous l'avez pour 500 €, hein. Voilà, tout bêtement. Et ça, en tant que journaliste, après, vous le savez. Alors, il y a souvent, je vous dis, des carottes plutôt que des menaces fortes. Après, vous avez des menaces subtiles. Genre, ça m'est arrivé, coup de téléphone de Matignon, c'est-à-dire vous êtes dans le siège des ministres, là, d'avoir un gros conseiller qui vous appelle, qui vous invite à déjeuner, et qui, au cours du déjeuner, vous explique, texto, « Roger, des gens comme toi, on en a besoin, c'est formidable, c'est très important et tout ça. On voudrait pas qu'il t'arrive quelque chose. » Bon. Conseil d'amis, ça s'appelle. Et tout ça, sympathique, avec les meilleurs vins, le foie gras de Matignon, il... Il vaut le détour, de façon très très sympathique. Et là, par exemple, je me mets à sourire, mais souris pas, Roger, c'est comme ça que ça se passe. La moindre faille que tu as, sexuelle, affective, financière, professionnelle, ils vont rentrer dedans et ils t'explosent. Et là, quand je suis ressorti de Matignon, il m'accompagne jusque sur le perron, les marches, là, les grandes marches. Et je descends les mains et je sentais mes jambes qui flageolaient parce que je me posais des questions, vous voyez. Tout à coup, quand même, vous dites, est-ce que je suis clair? Qu'est-ce que je risque? Bon, notamment faille affective, hein, ça voulait dire faille, une conjugalité avec peut-être quelques aventures et tout ça. J'ai eu, moi, des confrères travaillant dans des grands médias qui se sont fait exploser, qui ont dû quitter leur métier. Soit parce que on leur propose aux rédactions en chef, aux journaux par exemple, on leur propose de l'argent en échange de licencier le journaliste, hein, ça arrive aussi, parce que c'est quand même des gros annonceurs, ces gens-là. Et puis dans un cas, par exemple, le journaliste est rentré en dépression, puisque son couple a été détruit, sa femme a reçu des extraits d'écoute téléphonique de conversations qu'il avait avec sa maîtresse. Exemple. Voilà, ça fait partie des risques du métier quand vous l'exercez vraiment. Donc c'est vrai qu'il faut être courageux en même temps, il faut savoir à certains moments. Alors il y a des techniques. Je vous en donne une, par exemple, c'est de prendre des pseudos et puis quand vous sortez une affaire, de très vite rebondir avec vos pseudos dans d'autres médias. Comme ça, vous donnez l'impression qu'il y a beaucoup de journalistes, au moins plusieurs, sur l'affaire. Et à ce moment-là, s'ils veulent commencer à s'en prendre aux journalistes, ça fait trop. Un certain niveau de médiatisation. Les ennemis se calment. Il y a moins de menaces. Ça, c'est, voilà. Ou même des livres. Ça m'est arrivé de faire des livres avec plusieurs pseudos pour disséminer comme ça la responsabilité.
Et du coup, vous nous parlez des livres. Et à ce propos, vu que vous avez publié avec de nombreuses maisons d'édition, est-ce difficile de trouver un éditeur?
Au début, oui. Et puis, dès que vous en avez fait quelques-uns, alors après, c'est très facile. Ils viennent vous chercher même. Vous dire, ah oui, mais je peux pas, parce que tel livre, je suis en contrat avec tel éditeur. Mais c'est pas grave, on rachète le truc à l'éditeur, et puis vous venez chez nous. Voilà, ça, c'est, dès que vous êtes un peu bankable, dès que vous êtes, que vous ramenez un peu d'argent, évidemment, on a tendance à vous courir après, quoi. Au début, c'est un peu difficile, et l'éditeur vous prend pour une andouille, et donc vous propose des contrats, C'est tout juste si vous ne devez pas le payer pour qu'il vous publie, quoi, si vous vous laissez faire.
Êtes-vous toujours d'accord avec l'opinion exprimée dans vos premiers livres ou pas?
Oui. Surtout que les premiers livres, en plus, étaient très philo. Il y avait Les ignorances des savants, c'était un livre d'épistémologie sur l'histoire des sciences, le statut de l'ignorance, tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Je suis même épaté parfois en me relisant. Mais bon, il arrive qu'on se relise. Le griffonnage, l'esthétique des gestes machinaux, c'est un livre des... C'est de la philosophie esthétique, c'est l'approche des œuvres d'art que constituent à mes yeux les petits griffonnages qu'on fait dans les marges de son cahier en écoutant son prof, ou quand un conférencier ou quelqu'un au téléphone, etc. Bon, il faut savoir que même les plus grands artistes ont collectionné, par exemple Jean Dubuffet collectionnait ces petits griffonnages qui avaient l'air de rien, et c'est devenu après des œuvres tout entières. Il en a tiré des tableaux superbes, c'était tout. Période sur des années où il exploitait ses griffonnages. Picasso collectionnait ses griffonnages. Enfin bon, il y a toute une histoire là, formidable. Les griffonnages que nous faisons en disant c'est nul, j'ai faux à la poubelle, souvent ils contiennent des traits de génie sur le plan esthétique.
Et est-ce que ça vous arrive de rebondir sur vos anciens livres d'investigation par exemple?
Alors, oui, c'est arrivé. Par exemple, il y a eu la série là, avec Jean-Luc Touly, où j'ai rebondi, par exemple, il y en a, c'est les recasés de la République, c'est ce placard doré qui fait que quand vous êtes passé à un certain niveau en politique ou dans la haute administration, vous êtes sûr que jusqu'à la fin de vos jours, vous allez avoir des planques dorées. Hein, bien, voilà. Vous allez vous retrouver à la tête d'entreprises ou bien situées dans des entreprises du public, souvent, hein, ou du privé, etc. Bon, ça fait partie du... Ce qu'on peut appeler, donc les recasés de la République, ça c'est systématique, souvent recasés d'ailleurs dans des cabinets de lobbying, parce que là vous revendez vos relations avec les ministres, avec les conseillers de ministres, avec les toutes sortes de hauts fonctionnaires qui vont être très influençables, surtout si vous avez des avantages à leur procurer. Alors voilà, là j'ai dû rebondir sur 3-4 livres, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous retrouvez souvent les mêmes personnages en fait. Sauf qu'entre-temps, il y a eu quelques années qui sont passées, donc c'est voir, enquêter sur ce qu'ils sont devenus, et puis voir que souvent, ça a été en empirant. en général, plus ils vieillissent, plus ils veulent beaucoup d'argent, plus accèdent à des pouvoirs élevés.
D'accord, merci de votre réponse. Nous allons maintenant nous intéresser un peu plus précisément sur les sujets que vous avez abordés. Donc, on peut remarquer parmi vos écrits des sujets récurrents tels que la médecine ou la corruption. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ces sujets.
Alors, en parlant de faculté d'indignation, ça reste le moteur. C'est-à-dire que ça vous donne envie de vous réveiller le matin, même si le réveil c'est pas passionné, et puis de retourner au boulot. Ça m'est arrivé souvent. Vous avez, parce que pendant la nuit, vous réfléchissez, vous dites, ah putain, telle piste et tout ça, j'avais pas pensé, et vous êtes pressé, du coup, d'aller plus loin. Là où vous étiez, par exemple, vous vous sentiez dans une impasse, etc. Il n'y a jamais d'impasse, en fait. C'est juste parce qu'on pense pas aux façons de rebondir, aux voies. C'était quoi la question? J'ai oublié.
Pourquoi vous avez beaucoup écrit sur la médecine et la corruption?
Alors. Donc parce qu'il y en a beaucoup déjà aussi malheureusement à un niveau que l'opinion publique encore une fois ne soupçonne pas, hein, que même les journalistes, je me souviens j'avais fait un bouquin sur profession corrupteur, les journalistes qui m'invitaient, c'est revenu plusieurs fois, vous avez écrit un livre génial, bravo pour l'enquête et tout ça, mais franchement ça donne envie de vomir, ça fait drôle d'entendre ça, c'est-à-dire c'est à tel niveau la corruption. Surtout depuis la loi de 1982 qui a décentralisé. On a trouvé ça bien, Girondin, c'était le contraire de centralisation et tout ça. Mais ça a fait, comme me disaient les corrupteurs, pour nous c'est une chance formidable. Parce que le pouvoir étant délégué au niveau local, ça multiplie les possibilités de corruption. Auprès des maires, auprès des députés, etc. Quand ça, vous avez un truc très pyramidal, c'est ça le problème, c'est que ceux qu'il faut corrompre, ils sont bien hauts. Et ils ont beaucoup de propositions. Un maire, vous pouvez très facilement, je devrais peut-être pas le dire comme ça, parce qu'il en faut des maires, c'est fondamental, mais il faut les surveiller. Il faut tout contrôler, il faut regarder les contrats, il faut regarder s'ils sont respectés. Parce que souvent la technique, c'est l'entreprise qui a pris le marché immobilier ou de la propreté, ou etc. Il remplit le contrat qu'à moitié, puis on s'arrange pour le reste. Vous voyez la technique. Et là, quand la Cour des comptes passe, ce qui arrive malheureusement trop souvent, bah, ils découvrent le poteau rose. C'est que très souvent, trop souvent, les contrats sont pas réalisés, les travaux sont pas réalisés jusqu'au bout. Donc tout l'argent qui n'a pas été dépensé peut revenir sous la table sous la forme de rétrocommission. On redistribue l'argent entre soi. Bon, autrement dit, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de contrôle par les citoyens, contrôle des comptes, et puis évidemment, sanction. La Cour des comptes, malheureusement, n'a pas un vrai pouvoir de sanction. On devrait tous lire les rapports de la Cour des comptes. C'est fait pour ça, normalement. Si vous demandez à n'importe qui, est-ce que tu as lu un rapport des comptes dans ta vie ? Ben, s'il n'est pas journaliste, même les journalistes ne le font pas assez. Donc, j'avais créé un bouquin comme ça qui s'appelait « Les rapports enterrés de la République ». Sur à peu près tous les sujets, tous les problèmes, il y a des tonnes de rapports au fond des placards, avec les solutions. Mais les rapports ne sont pas faits pour qu'on les lise. Voilà.
Ben, merci. Et pour revenir sur, encore une fois, vos livres, est-ce que vous revendiquez une certaine forme d'objectivité dans vos livres ou est-ce qu'au contraire vous assumez d'avoir d'exprimer aussi des points de vue, des jugements de fait, de valeurs
Oui, c'est une question importante hein, parce que on se la pose sans arrêt à l'écriture. À chaque phrase, vous pouvez amplifier. Le langage peut permettre tout. Les demi-mensonges, les exagérations, passer à l'as les nuances qui vont pas tout à fait du côté de la thèse que vous défendez, de la démonstration. Donc ça, c'est une question permanente. Et donc très souvent, le langage vous fait dire des choses qui vont un peu au-delà de ce que vous voulez dire. Donc là, il y a un vrai travail quand même littéraire. Hein. Certaines fois, dans des enquêtes comme ça, je me dis finalement, c'est à la fois une enquête et en même temps un roman... de littérature moderne, quoi. Parce que le niveau, en tout cas, moi, ça m'a toujours passionné, c'est le niveau de précision de langage hein, que vous devez avoir et la construction, parce qu'en fait, à chaque fois, vous racontez une histoire, même dans une enquête. Il y a une façon de la développer, une façon de la mener aussi, et tout ça, sur la base de certaines thèses et en fonction de vos découvertes. Alors, après... La question de l'objectivité, vous vous la posez, mais puissance 10, quoi. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, moi, de découvrir des corrompus à très haut niveau, le jour où je sortais l'affaire, mais les gars, après, ils sont dans la dépression et ils crèvent dans leur coin. Tellement ils sont mal vus par leur famille, par leurs amis, et tout ça, tout le monde les fuit. Et là, vous vous dites, ah, est-ce que j'ai pas appuyé un peu fort? Quand vous croisez le bonhomme, et vous voyez l'état dans lequel il est. Ça, c'est des choses qui me sont arrivées. Sur l'amiante, par exemple. Et de me dire, bah oui, mais en face, le type, il est responsable de milliers de morts, quoi. Donc, c'est un tueur en série, le gars, à ce niveau-là. Vous voyez, c'est ça, hein. On est sur la santé publique, c'est une priorité. Vous devez sauver des vies. Vous devez faire reconnaître des victimes, qui vont avoir peut-être des réparations grâce à votre travail, des réparations financières. De dénoncer la chose. Et puis, si, souvent, vous faites de la dominem, c'est-à-dire vous nommez les gens, ça c'est quand même... Bon, alors beaucoup veulent pas nommer les gens, mais si vous nommez pas les gens, vous responsabilisez personne, parce qu'en fait tout le monde s'en fout derrière. Quand vous commencez à donner des noms, et vous appelez les gens, et vous donnez votre nom en tant que journaliste, très vite, s'il n'est pas encore au courant de qui vous êtes, dans l'heure qui suit, il l'est, et là il claque les dents. Et il commence à vous dire, ce que j'ai entendu souvent, par exemple, « Attendez, si vous parlez pas de moi, je peux vous donner des trucs, alors j'en connais qui font bien pire. » Des collègues. Alors là aussi, vous êtes l'objectivité. où est-ce qu'elle s'arrête là? Et vous dites oui, bah d'accord. Alors ça m'est arrivé de répondre, on verra. Un peu comme un commissaire. Vous avez l'impression d'être comme un commissaire ou un juge, voyez, qui propose des compromis hein, au gars. C'est un gars de la mafia, il accepte de balancer plus gros. Bah, ça se négocie. La peine sera moins lourde, quoi. On parlera moins de vous. Et ça m'est arrivé de. Une fois, à vrai dire. Hein. C'était justement sur la stérilisation des jeunes françaises débiles, considérées comme débiles légères, souvent qu'ils n'étaient pas du tout. On s'en aperçoit après. Un chirurgien qui pratiquait ça massivement, il me dit, moi je peux vous donner le nom de professeurs qui le font beaucoup plus que moi. Et vous ne parlez pas de moi. Au passage, il me dit, en plus ma fille, elle est abonnée à Charlie Hebdo. là, le gars, j'ai pas donné son nom. Vu ce qu'il m'a balancé en face, j'en avais plus besoin, quoi. Et ça fait partie des choses, après, ou vous pouvez éventuellement rappeler l'informateur, enfin le gars qui est devenu un informateur, parce que du coup il va être encore utilisable. Ça fait partie là, on est à la limite, hein, de... Mais encore une fois, c'est le travail que fait le juge, par exemple, ou le commissaire. Bah, transformer le coupable en indique.
Et donc, à propos de vos écrits, est-ce que vos ouvrages ont-ils été durement critiqués? Et si oui, est-ce que c'est dur à supporter?
C'est insupportable. C'est absolument insupportable. Vous n'en dormez pas les nuits qui suivent. Alors, j'imagine qu'on trouve toujours ça injuste. Mais en fait, durement critiqué, je dis c'est insupportable, ça m'est arrivé une fois. Et c'était un journaliste de plateau, une animatrice de plateau, d'une émission très connue, qui se vengeait d'une mise en cause que j'avais faite 20 ans avant, où j'avais révélé qu'elle faisait des ménages, qu'on appelle faire des ménages, c'est-à-dire qu'elle travaillait bien payée en faisant quelques heures d'animation d'une conférence, etc., au sein de grandes entreprises du médicament. Donc elle m'en a toujours voulu, et puis un jour qui présentait mon livre, c'était Psychotrope, là, et Thurie de Masse, sur le plateau, j'ai bien identifié la critique qui était faite et ce qui la motivait, qui était totalement injuste. On critiquait sur le fait de pas avoir rappelé que les psychotropes, ça faisait du bien aussi à certaines personnes. Or, j'avais justement regardé toutes les études sur le sujet, les médicaments, les antidépresseurs précisément, et il n'y a pas d'études indépendantes. Vous pouvez même pas dire que par rapport aux effets secondaires qui sont considérables, le nombre de suicides, d'actes criminels, d'agressions, etc., dont les tueries de masse, vous pouvez pas dire, vous n'avez pas d'éléments objectifs qui vous permettent de dire les antidépresseurs globalement font du bien à la population, plus de bien que de mal. Le nombre de suicides dus aux antidépresseurs, c'est faramineux, c'est même indiqué sur les notices. Attention. Tentation suicidaire accrue, etc. Attention, agressivité, etc. On a obtenu ça au fil des années, que les notices soient un peu plus précises. Pour un journaliste de santé, faire des ménages pour les labos pharmaceutiques, ça va pas du tout. Oui. Ça veut dire être en conflit d'intérêts, être payé, forcément. On n'a pas envie de perdre ses avantages, là. C'est honteux, quoi, en fait. Ça devrait même être interdit, en réalité. Les médecins, par exemple, aujourd'hui, qui interviennent sur des sujets concernant des maladies ou des prescriptions de médicaments, quel que soit le média, ont l'obligation de déclarer leur lien d'intérêt avec les labos pharmaceutiques. Soit une association qui reçoit de l'argent du labo, soit des invitations un peu fréquentes, ou soit des rémunérations, comme par exemple d'expérimenter certains médicaments à l'insu du malade, par exemple. Où on peut être payé entre 500 et 1000 euros par malade qui prend le médicament et qui n'est pas informé qu'il sert de cobaye. Ça fait partie des choses qui existent. Ça, c'est du conflit d'intérêts. Alors normalement, tout ça, ça va. On a tellement fait de pression au fil des dernières décennies que ça va en s'améliorant, mais ça reste très difficile parce que la corruption, elle utilise des moyens de plus en plus cachés, subtils, indirects. Bon, voilà.
Est-ce qu'il y a des affaires qui vous tiennent plus à cœur que d'autres, ou toutes les affaires sont pour vous au même pied?
Alors non, parce que celles qui sont le plus sensibles pour moi, c'est celles où il y a le plus de morts. Déjà, c'est quantitatif. Hein, il y a des, et puis, il y en a d'autres qui me tiennent à cœur aussi particulièrement. Je pense en particulier le nanotoxique, un livre qui s'appelle Nanotoxique, sur les nanotechnologies qui sont toxiques. Il y en a. Il y en a trop, elles sont sur le marché, ces nanos sont sur le marché, elles entrent même dans des médicaments, dans des produits alimentaires, cosmétiques, etc. Et là, pourquoi elles me tiennent à cœur? C'est par le nombre de personnes, évidemment, que ça représente, mais aussi parce que c'est un sujet d'avenir. C'est-à-dire que tous les matériaux chimiques que nous connaissions jusqu'à maintenant, on va dire dans 20 ou 30 ans, tout sera à base de nanos. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de propriétés, c'est plus intéressant économiquement. On vit une révolution chimique actuellement, et toutes les nanos qui ne sont pas évaluées pour leur toxicité et qui sont mises sur le marché comme ça, auxquelles on s'est déjà habitué, quand vous prenez connaissance des études sur leur toxicité et les effets à long terme ou à court terme, hein, les effets toxiques, les nanos, elles sont tellement petites, hein, c'est le milliardième de mètre, tellement petites, donc invisibles à l'œil nu, on va dire que d'une façon générale, c'est à peu près de la grosseur du virus de la grippe classique. C'est tellement petit que ça rentre dans le cerveau sans problème la plupart du temps. Et elles ont des manières d'y entrer. En plus, on a l'impression de gens qui rentrent dans des balles où ils ne sont pas invités et ils prennent le bras d'autres molécules pour pouvoir entrer, passer la barrière hémato-encéphalique qui normalement protège le cerveau. Ce qui donne une détérioration des neurones, etc., des processus type Alzheimer, Parkinson, tout ce qu'on veut, des maladies neurodégénératives. C'est un tel sujet, ça, tellement envahissant, dont on parle tellement peu, que ça, par exemple, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je disais même à mon fils, il devrait devenir... me demandait quel métier d'avenir il pouvait faire en dehors de la philo, parce qu'il était un moment passé par la philo. Je disais toxicologue. Spécialise-toi sur les nanos. Ça, c'est le métier d'avenir. C'est là où tous les dossiers concernant les méfaits de la chimie seront regroupés demain. Voilà.
Et est-ce que vous avez eu des regrets sur des livres que vous avez écrits ?
Oh, alors cette question-là, non. Intéressant comme question. Il faudrait peut-être que je me la pose. Alors, il est arrivé que je découvre, j'en ai même fait des cauchemars. Par exemple, dans le griffonnage, à un endroit, il y a une faute d'orthographe. Et c'était mon premier livre. Alors, le regret, je l'ai immédiatement, ça m'a rendu... Bon, surtout les premiers livres, on se fait des... On n'est pas des professionnels encore. On se fait des salades avec pas grand-chose. J'avais un tribunal, carrément, tribunal, hein, vrai, avec les magistrats et tout ça, les juges qui me disaient, vous avez écrit tel mot à tel endroit, vous n'avez pas mis de féminin, alors c'est un féminin, un cauchemar. Mais symboliquement, narcissiquement, c'est vachement important, hein, quand même, hein, d'écrire un livre. Bon, après, des fautes, il n'y a pas un livre où il ne reste pas des lapsus, des fautes, ou parfois même des fautes introduites par le correcteur. Qui savait pas qu'il y avait telle subtilité ou etc. Bon, mais après ça vous fait plus grand chose. Sauf une fois quand même, les lapsus. On avait tout un groupe dès le premier paragraphe du livre. Là vous êtes anéanti là. Enfin vous regrettez pas, c'est pas de votre faute, mais c'est des trucs. Et une autre fois aussi pour un livre qui m'avait valu un procès, c'était très drôle. L'éditeur au moment d'éditer le livre avait confondu une version précédente qui n'était pas encore corrigée et relue par mes soins. Et il a édité le bouquin qui était bourré de fautes. C'était presque une prise de notes, quoi. Donc lui-même était effondré, mais ça y est, le tirage était lancé. Et au procès, je m'en souviens encore, le juge qui lisait des phrases qui nous étaient reprochées comme diffamation, à un moment, il a dit, mais si, c'est bourré de fautes, j'arrive même pas à le lire. Bon, donc ça, c'est une crise de rire. Mais voilà.
Eh bien, merci de votre transparence. Et avec les actualités qui se sont déroulées dernièrement, que ce soit en France ou dans le monde, avez-vous de nouveaux sujets à traiter ?
Alors, donc aujourd'hui, j'ai 66 ans, là, bientôt 27, dans quelques jours. 67. Et je me dis, bon, il me reste pas énormément d'années pour faire des livres. Bon, mettons 20 ans, là, si tout se passe bien, allez. 20 ans, si j'ai pas d'Alzheimer, Parkinson, etc., hein, on y pense. Me dis, j'aimerais bien faire quelques chefs-d'œuvre, quand même. Des chefs-d'œuvre. Donc, par exemple, je me suis attaqué, j'ai presque écrit, quoi. C'est l'histoire de la corruption en France, de l'ancien régime à nos jours. Je sais pas si vous voyez le volume. Donc ça veut dire plusieurs volumes, là, l'éditeur s'arrache un peu les cheveux, etc. Mais c'est génial, si vous regardez l'histoire de France, du point de vue de la corruption, les grandes décisions, bien sûr, qui ont fait l'histoire de France, c'est pas la même histoire. C'est plus du tout la même histoire. Que ça soit Napoléon, vous le voyez plus du tout pareil, par exemple. Napoléon, il est encore très populaire, hein. Il y a une grande figure, etc. Chez Napoléon, vous découvrez, que, je vous donne qu'un exemple, hein, d'une période sur laquelle on peut parler facilement maintenant, sauf que les historiens, ils ont aussi des fétiches, mais enfin bon. Napoléon, c'est un des plus gros corrupteurs de tous les temps. entouré des plus gros corrupteurs de tous les temps, si Fouché, Talleyrand, etc. Talleyrand qui il signait, c'était un diplomate, hein, donc ambassadeur, il signait des conventions internationales, des traités de paix, etc., moyennant de l'argent sous les tables. Et c'était sa technique habituelle, c'est-à-dire qu'il fallait s'enrichir, à la fois corrompre et être corrompu, s'enrichir. Fouché, ministre de la police, c'était pareil. Et Napoléon, dans ses mémoires, quand vous lisez, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, la corruption, faut jamais l'utiliser comme méthode de gouvernement. C'est très efficace, mais j'en suis mort. Et pourquoi ? Alors c'est moi qui pose la question, pourquoi ? Pourquoi dit-il ça ? C'est que quand vous vous entourez de corrupteurs, qui vont corrompre par exemple les parlementaires pour faire passer une réforme, corruption qui peut être donc financière, qui peut être des promesses, de toutes sortes. Hein. Par exemple, là, si Napoléon voulait faire passer la réforme des retraites, obtenir plus facilement une majorité, comment on fait, d'après vous ?
Vaste question.
Bonne question, effectivement.
Donc des belles promesses, de beaux engagements en termes de renvoi d'ascenseurs, etc. De l'argent aussi, bien sûr. Toutes sortes de choses. Hein. On peut embaucher le fils dans telle grande société d'eau ou d'énergie, etc. etc. Et Napoléon explique, c'est parce que quand vous travaillez avec des corrupteurs, vous pouvez rester très longtemps au pouvoir, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'en général, ceux qui corrompent, que vous avez corrompu, si vous les avez directement, hein, comme Talleyrand, Fouché, etc., autour de vous, auprès de vous, eh bien, ils vont vous trahir dès qu'une corruption va se présenter possible contre vous, qui sera suffisamment intéressante. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme il dit, il en est mort. Ces gens-là l'ont trahi. Donc c'est le plus mauvais système de gouvernement, le plus immoral en plus, bon évidemment, parce que vous paralysez complètement la démocratie, et en plus, vous pouvez pas tenir dans la durée. C'est-à-dire que même lui, hein, il disait finalement le meilleur moyen que j'avais trouvé pour rester au gouvernement, au pouvoir, qui me rendait complètement incontestable, c'était de multiplier les guerres. Quand vous êtes en guerre, tout le monde vous respecte. Les ministres ont peur, l'opinion publique a peur, tout le monde vous suit. Bon, espérons qu'il n'y ait pas de guerre.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Merci Monsieur Langlais, sauf si vous avez quelque chose à rajouter ou...
Non, merci de m'avoir invité.
Merci à vous. C'était
un plaisir pour nous.
C'était très merci. Intéressant. Merci énormément.
C'était un plaisir. Et donc, tout de suite, Aerosmith. Et juste après, nos camarades vous parleront du harcèlement scolaire.
Little skirt hanging. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler du harcèlement. Je suis donc avec trois camarades et nous sommes tous donc ambassadeurs contre le harcèlement au sein du lycée. Bonjour Aldric.
Bonjour.
Bonjour Emma.
Bonjour.
Et bonjour Jeanne.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs thématiques contre le harcèlement. Donc d'abord, nous sommes tous ambassadeurs contre le harcèlement. Nous avons tous suivi une formation. Donc Adric, est-ce que tu pourrais un peu nous en parler au niveau du déroulement ?
Ouais, pas de souci. Alors en fait, ça a lieu pendant une journée entière. On a été pour cela épaulés par le délégué académique à la vie lycéenne et par une équipe mobile de sécurité. Donc en fait, pendant toute la journée, ils nous ont un peu expliqué comment se déroule le harcèlement, quelles sont les différentes modalités, donc parce qu'il n'y a pas qu'un seul harcèlement, comment le déceler, enfin plein de choses, comment réagir en fait, comment être un intermédiaire finalement.
D'accord, super. Et à quoi cela, ça a servi à quoi tout ça, Emma ?
Personnellement, j'ai plutôt appris sur le cyberharcèlement, parce que l'harcèlement, on y est confronté, enfin on a déjà des formations au collège, etc. Donc après, ça nous a plutôt appris à agir en fonction, comprendre les bases et comprendre comment agir en fait, en cas d'harcèlement.
Est-ce que cela, ça t'a aidé ou pas, Jeanne, pour mieux comprendre le problème du harcèlement à l'école, sur Internet, etc.
Bah oui, je pense que ça a aidé parce que on connaît tous des personnes qui ont vécu du harcèlement et en fait, on nous a donné des clés pour gérer ce genre de problème. Du coup, oui, c'est une grande aide.
D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Aldric, tu te sentirais prêt à aider quelqu'un qui se fait harceler au lycée, par exemple ?
Alors, je pense que tout seul, non. Même si on nous a donné des clés, c'est pas forcément évident parce que ça peut être vraiment des situations douloureuses parfois. Mais je pense qu'on peut quand même être une première barrière, un premier rempart pour aider et comprendre la personne, l'épauler. Mais il faut également servir d'intermédiaire entre l'harceleur aussi pour comprendre pourquoi aussi parce que c'est important, mais surtout l'harceler, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pouvoir transmettre aux adultes parce que c'est eux qui vont plus pouvoir agir. Et donc nous on est une sorte d'intermédiaire entre l'harceler qui a pas forcément le courage, enfin c'est pas une sorte de courage mais pas forcément la volonté d'aller voir tout de suite les adultes, et nous on va pouvoir servir d'intermédiaire entre l'harcelé et l'infirmière par exemple, ou les conseillers principaux d'éducation, ou toutes sortes d'adultes qui va pouvoir agir finalement.
D'accord. Toi par exemple Emma, est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que tu te sens capable aujourd'hui d'aider quelqu'un qui a des problèmes avec le harcèlement ?
Comme on l'a dit précédemment, je pense que c'est hyper compliqué d'agir seul. Personnellement, ça m'a vraiment aidé à reconnaître le harcèlement et comprendre d'où ça pouvait partir, etc. Et puisqu'on est plusieurs, on peut vraiment avoir un impact. Et est-ce que je serais capable d'agir en fonction ? Je ne sais pas vraiment, mais je pense que si on s'y met tous, c'est bien plus simple d'aider après.
C'est ça, parce qu'avant tout, on est quand même un groupe, donc on n'est pas seul à aider tout le monde. Jeanne, toi, est-ce que tu te sens capable aujourd'hui d'aider quelqu'un ?
Bah oui, je me sens capable parce que déjà il y a différents types de harcèlement, mais on a vu différentes manières de les gérer. Et c'est vrai que maintenant qu'on a toutes les clés en main, on sait comment agir, on sait qu'il faut en parler, on sait totalement quoi faire dans ce genre de situation. Et voilà quoi.
Bon bah super. Hein. Donc notre première partie d'émission est donc touche à sa fin. Donc on va tout de suite passer à une intermède musicale et on va écouter donc Petite Émilie de Kinvé.
Petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on sorcelle, pour toute sa mère, elle en était la prunelle. Ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Rien n'a
changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses bitons, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tou. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Dites Émilie, à 12 ans maintenant. Adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant. C'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux il appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées aux enfants qui les passent, ne sachant pas comment faire et comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades tous ensemble l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle puisse en supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix.
Nous revoilà pour la deuxième partie de notre émission consacrée au harcèlement. Donc nous verrons maintenant quels sont nos projets pour le lycée.
D'ailleurs Louis, on ne t'a pas encore posé la question, mais toi tu as déjà fait la formation l'année dernière, donc ça te permet d'avoir encore plus d'expérience. Est-ce que tu penses que cette formation t'a apporté au cours de l'année dernière déjà ?
Oui, elle m'a beaucoup apporté parce que c'est vrai que bon, je l'ai refait cette année parce que c'était quand même assez intéressant. Puis c'est bien de revoir un peu, comme on dit, nos classiques. Après, moi, j'ai trouvé ça super. C'est vrai que ça nous apprend vraiment la base des bases du harcèlement. Et j'invite vraiment les gens qui souhaitent rejoindre les ambassadeurs contre le harcèlement à faire la journée de formation qui se passe souvent en début d'année. Donc vraiment, tous ceux qui sont là en ce moment en seconde ou en première, vous allez vraiment l'année prochaine faire cette formation. Ça peut que vous apporter du bien. Et puis ça peut vous permettre un peu aussi de... vous donner une sorte de solidarité avec un peu plusieurs personnes du lycée, et c'est plutôt sympa.
Bah, merci beaucoup.
Bah, avec plaisir. Donc, quels sont nos projets pour le lycée? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on décide d'aller dans un collège. Tu pourrais nous en parler, Aldric, un peu?
Oui, donc du coup, on a décidé de faire une petite intervention, voilà, c'est ça, au collège Jean Rostand. Donc là-haut, en fait, on va pouvoir parler du harcèlement et essayer de traiter la chose à la racine, parce que c'est là qu'il y a le plus de harcèlement, c'est surtout au collège. Et nous, on peut peut-être apporter notre avis un peu plus mature, entre guillemets, parce que maintenant qu'on a un peu plus d'expérience dans la vie,
exactement,
même si bon, on est encore jeune, mais on a déjà un peu de recul par rapport à ça. Et donc nous, on va pouvoir aller au contact des collégiens pour leur expliquer qu'est-ce qu'on a vu pendant cette formation. Qu'est-ce que c'est le harcèlement, comment le reconnaître, comment agir, etc. Et nous transmettre ce qu'on nous a transmis. Et donc, au cours de la journée, on va leur parler de harcèlement, mais aussi beaucoup du cyberharcèlement, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre génération. Et Emma va pouvoir vous en parler un peu plus.
Ouais, Emma, tu nous parles un peu du cyberharcèlement. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce collège pour sensibiliser les élèves au cyberharcèlement?
Alors déjà, il faut savoir que le cyberharcèlement, c'est le harcèlement en ligne, donc sur les réseaux sociaux, par message, etc. Donc c'est des insultes par message ou même des photos qui ont été dégradantes. Le but, c'est d'embêter une personne en ligne. Ça peut être en groupe ou ça peut être individuellement, etc. Et donc nous, le but, c'est aussi, on sait que maintenant, de plus en plus de jeunes ont accès aux écrans, etc., aux réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui impacte, d'autant plus maintenant. Et donc, on va sensibiliser pour le harcèlement, mais aussi le cyberharcèlement. Donc après, je vais laisser la parole à Jeanne qui va expliquer ce qu'on compte faire. Mais le but, c'est vraiment aussi de prendre le problème à la racine, comme on a dit.
Jeanne, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur cette intervention dans le collège Jean Rostand ?
Du coup, on va passer dans des classes et on va proposer des ateliers pour donner cette envie de lutter contre le harcèlement tout en restant pédagogique. Le but, c'est de donner envie aux jeunes de lutter contre cette cause. Et ça va se faire par des petits jeux ou par des sortes de diaporamas comme des petits exposés pour sensibiliser directement.
D'accord. Bon, bah c'est super en tout cas. Et merci à tous d'avoir écouté. Donc on espère que ça a pu aider plusieurs personnes qui ont des problèmes avec le harcèlement, notamment au collège ou au lycée. On rappelle d'ailleurs les numéros verts. N'hésitez pas surtout à aller voir votre infirmière s'il y a un souci, ou voir les plus grands de votre établissement, ou encore d'aller voir les ambassadeurs contre le harcèlement. On rappelle les numéros verts, le 30-20 pour le harcèlement et le 30-18 pour le cyberharcèlement. Maintenant, place à la rediffusion. On se retrouve demain à 8h et on écoute Could You Be Love de Bob Marley. Merci à tous.
Et je sais.